France Musique.
Bonjour à tous, bonjour Émilie.
Bonjour Rodolphe, un opéra de Handel et des quatuors de Chostakovitch.
Et tout de suite une valse.
Thank you.
du grand piano qui sonne, deux grands pianos et deux grands pianistes même, Sergueï Babaïan et Danil Trifonov, deux amoureux de Rachmaninov, le maître et le disciple. On vient de les entendre dans la valse de la deuxième suite.
Ah, ils ont travaillé ensemble ?
Babaïan a été le professeur, l'un des grands professeurs de Trifonov. Et Le Devoir, le quotidien Le Devoir, nous dit que le miracle de cette transcendante alliance saute aux oreilles de tous. Et c'est marrant parce que ça a sauté à vos oreilles dès le début.
Oui, absolument.
Aussi, Émilie, tu nous as dit, oulala, ça a l'air d'être très bien joué. Nappes sonores et univers inouïs surgissent des deux claviers. Donc, un grand disque avec un duo de piano qui égale les très grands. On pense à Martha quand elle jouait avec Nelson, au Labec. Il y a quelque chose d'organique et de forte personnalité derrière les deux claviers. C'est ça aussi, je trouve, qui fait la force de ce type de duo. Sergueï Babaïan dit que lorsqu'il écrit pour deux musiciens et deux pianos, nous, les mortels, avons la chance de découvrir comment il jouait sur un seul piano. Comme si effectivement l'univers de Rachmaninov était plus naturel à deux pianos. Il s'agit ici d'un concert donné à Vienne et proposé par le label Deutsche Grammophon. Et on y trouve donc les deux grandes suites de Rachmaninov. Et voici la première maintenant. Thank you. Les larmes et les cloches de Pâques, c'est la première suite de Rachmaninov, Sergueï Babaïan et Danil Trifonov, deux superbes musiciens pour ce Deutsche Grammophon. Et si vous cherchez une belle version des concertos de Rachmaninov, Danil Trifonov les a enregistrés il y a quelques années avec Yannick Nézet-Séguin. Et ce sont deux amoureux de Rachmaninov, nous disent-ils. D'ailleurs, ce disque était sorti pour le 150e anniversaire du compositeur.
Ah, c'est pas un EP.
Non, c'est un vrai disque
avec un vrai grand problème.
Il y a aussi les danses symphoniques dessus pour compléter ce double disque même.
Il est 9h17. C'est une nouvelle découverte à faire sous le désormais label du Château de Versailles Spectacle.
Oui. Une nouvelle découverte, on en a tous les jours avec eux.
Non, dans l'œuvre, je veux dire. Ah. Vous connaissez cette œuvre ?
Non, je ne crois pas.
Poros, roi d'Inde, de Handel.
Qui ? Poros ?
Poros, oui, mais Poros ou Poros, en fait, on peut dire les deux. On peut même dire Porus, si vous voulez, en latin.
Très bien.
Je vous les donne tous. C'est pas son opéra le plus célèbre. Et côté discographie, j'ai trouvé une version de 1994 dirigée par Fabio Biondi avec Gérard Lenne et Bernard Dafink. Et j'ai pas l'impression que depuis cet opéra ait été enregistré. Alors il l'est aujourd'hui par l'ensemble Il Grivoglio dirigé par Marco Angioloni. 28e opéra seria de Handel qui a déjà connu d'énormes succès londoniens. Et donc cette œuvre sera très chaleureusement accueillie, reprise après sa création en 1731. Pourquoi a-t-elle disparu par la suite, c'est une question, parce qu'on y trouve de très beaux duos, comme ici.
Corum,
Les voix de Christopher Laurie et de Lucia Martin Carton avec Il Groviglio de Marco Angioloni, ce Handel, ce pauvre roi d'Inde, qui met donc en scène les rivalités guerrières d'Alexandre le Grand et du roi indien Porus, une rivalité guerrière, mais comme toujours chez Handel, il y a des intrigues amoureuses et politiques, tout y est dans cette grande pièce. Alors le roi, c'est Christopher Laurie, et maintenant on va entendre Alexandre, et c'est le musicien qui dirige, qui reprend le rôle, le chef et ténor Marco Angioloni, qui abandonne donc parfois son ensemble, survolté d'ailleurs pour l'occasion, pour interpréter les rôles virtuoses et pyrotechniques d'Alexandre.
Barbaro scortese, non rammenta l'offese, da un pregio chi innamora più che la tua beltà, da un pregio chi innamora più che la tua beltà. Un barbaro scortese, non rammenta le offese, non rammenta le offese, non rammenta, no, no. E pregio chi innamora più che la tua beltà, più che la tua beltà, più che la tua beltà. E pregio chi innamora, e pregio chi innamora più che la tua beltà. Da lei, crudele da lei, che ingiustamente offendi, quella pietà di apprendi che l'alma tua non ha. Crudele da lei, che ingiustamente offendi, quella pietà di apprendi che l'alma tua. Rammenta l'offese, a un pregio chi innamora più che la tua beltà, a un pregio chi innamora più che la tua beltà. Un barbaro scortese, non rammenta le offese, non rammenta le offese, non rammentarlo, no, non rammentarlo. Innamora più che la tua beltà, più che la tua beltà, più che la tua beltà. E pregio chi innamora, e pregio chi innamora più che la tua beltà.
La voix de Marco Angioloni dans ce Porus, roi d'Inde de Handel, qui avait choisi Handel, les plus grandes stars du chant de l'époque, et c'est peut-être aussi pour cela que l'œuvre a eu beaucoup de succès lors de sa création. La distribution aussi est de au vol, et notamment donc une musicienne que j'aime tout particulièrement, que vous avez déjà entendu il y a un instant, et vous allez l'écouter à nouveau parce que je trouve sa voix envoûtante et d'une incroyable justesse et sensibilité. C'est celle de la soprano espagnole Lucia Martin Carton.
Spirito amato del mio,
La très belle voix de Lucia Martin Carton avec l'ensemble Il Groviglio. J'arrive pas, hein?
Non.
Dirigé, non, non.
Je vous aide pas.
Par Marco Angeloni, Porco Roi de l'Inde. Et c'est donc la musique de Handel. Ça sort sous le label Château de Versailles Spectacle.
Il est 9h30.
France Musique, en piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Le Quatuor d'Handel a enregistré deux fois l'intégrale des Quatuors de Chostakovitch, une première fois entre 2001 et 2006, et il récidive. Ils les ont joués plus de 30 fois en concert, mais ils parlent d'un organisme vivant à propos de ces Quatuors et prennent l'exemple du Quatuor Amadeus qui a enregistré trois fois les Quatuors de Beethoven. Alors, je ne sais pas si ça veut dire qu'on va avoir une troisième version dans quelques années. Alors, il faut dire qu'aussi, entre-temps, les musiciens du Quatuor d'Handel ont changé et ils avaient envie de réenregistrer. Nous n'arrêtons pas de nous confronter à Chostakovitch. L'étude de cette musique est comme la quête du Graal, précise Marc Danel. Et par exemple, le 8e Quatuor, celui que nous venons d'entendre, ils l'ont joué plus de 250 fois en concert. Donc autant vous dire qu'ils connaissent extrêmement bien cette musique. Ils la jouent depuis 1992 sur scène. Et entre-temps, ils disent « Nous avons voyagé, échangé avec d'autres musiciens et nous avons eu la chance de rencontrer personnellement Irina Chostakovitch, la veuve du compositeur, ainsi que nombre de ses amis et de ses voisins. Et tout cela nous a marqué. » C'est un très beau coffret. C'est notre disque du jour. Alors on était ici dans peut-être un des quatuors les plus connus. Voici un beaucoup moins entendu. C'est le 4e quatuor de Chostakovitch. Et c'est donc le coffret du Quatuor d'Handel. En plus, c'est très bien édité. C'est un beau coffret. Il y a un appareil critique avec des textes en français qui sont passionnants, des interviews, des photos. Et c'est donc notre disque du jour. C'est notre disque du jour sur France Musique, c'est même un coffret. C'est la deuxième fois que le quatuor d'Anel enregistre tous les quatuors de Shostakovich. Ici, on a écouté un extrait du quatrième quatuor. Et c'est donc pour le label Accentus.
On va rester du côté de la musique de chambre avec Brahms maintenant.
Thank you.
trois musiciennes composent le trio Sora, trio qui a vu le jour en 2015, ici elles jouent Brahms. Elles ont beaucoup travaillé avec Mathieu Herzog, ex-Quatuor Ebène, chef aujourd'hui, qui, nous dit-on, les a guidées musicalement et humainement et les a aidées à parachever la construction de leur trio de A à Z. Premier disque en 2020, Beethoven, c'est vous qui l'aviez écouté,
oui,
Rodolphe.
Oui.
Et puis on les a entendues à Radio France également, puisqu'elles ont créé un triple concerto qu'elles avaient commandé à la compositrice canadienne Kelly Marie Murphy avec le Philharmonique de Radio France. Et puis aujourd'hui, autre très grand projet, les trois trios de Brahms, un autre Everest après avoir abordé Beethoven, peut-être une suite logique puisque quelque part les œuvres de Brahms trouvent aussi leurs racines dans le classicisme de Beethoven. Version précise, vibrante et vivante avec un jeu de piano très perlé, vous allez l'entendre dans le scherzo du premier trio. Lorsqu'on joue cette œuvre, on ressent son amour mais aussi sa reconnaissance, son amitié envers les Schumann, cette tornade multiple qu'il a dû vivre chez eux. Voilà ce que nous disent les musiciennes. Et le scherzo donc du premier trio de Brahms, le voici par le trio Sora. Thank you. Le scherzo du premier trio de Brahms par le trio Sora, qui enregistre donc l'intégralité de ce corpus brahmsien après avoir enregistré Beethoven. C'est le nouveau disque, il sort aujourd'hui.
Vers 10h20, nous continuons de souhaiter notre anniversaire, de nous souhaiter notre anniversaire. On vous fera gagner un disque et on vous fera écouter un de nos disques coup de cœur, celui de Maria Dueñas, jeune violoniste espagnole qui a enregistré le concerto de Beethoven. Vous voulez dire quelque
oui,
chose?
Oui, et avant que vous passiez à autre chose, non, on en profite pour remercier les nombreux auditeurs qui, depuis 2 semaines, nous envoient énormément de mails d'anniversaire, oui, de remerciements, d'amour. Et voilà, on vous aime nous aussi.
Et donc vous pourrez même nous heureux. Retrouver lundi soir prochain pour la grande soirée France Musique en piste 10 ans. Avant, on va vous faire découvrir la musique d'un certain Melchior Neusiedler.
France Musique en piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
On découvre un musicien, on découvre un répertoire, on découvre peut-être pas un instrument quand même, le luth, ici par Max Advich, qui est un musicien allemand qui a commencé par la guitare et qui a été fasciné par l'écriture des instruments à cordes de la Renaissance et qui assez récemment s'est mis à travailler son luth et il est d'ailleurs, nous dit-on, toujours étudiant autour de cet instrument. Et ici, c'est un répertoire donc de ces compositeurs de la Renaissance allemande qu'on ne connaît pas très bien. Vous avez entendu Melchior Neusiedler, qui est un musicien qui est complètement tombé dans l'oubli, qui était également luthiste. Et le point commun entre ces différents compositeurs, je pense que d'ailleurs c'est un peu souvent le cas, pour écrire pour luth, il faut être soi-même luthiste, parce que c'est un instrument assez compliqué pour les compositeurs. Et donc ici, on découvre plein de compositeurs allemands qui étaient luthistes à l'époque. C'est le cas aussi de Hans Judenkönig, que nous écoutons maintenant. Thank you. Max Advich qui enregistre ici la musique de Hans Judenkönig.
On va passer à un compositeur peut-être plus célèbre que celui qu'on vient d'entendre,
un petit peu,
c'est Joseph Haydn.
Thank you.
La 67e symphonie de Haydn par le Heidelberger Symphoniker dirigé par Johannes Klump. Alors que vous dire sur cette intégrale? Eh bien, information capitale, toutes les symphonies ont maintenant été enregistrées. toutes.
Ah,
et aujourd'hui,
peut-être qu'on va en découvrir une un jour.
Voilà, ça je suis pas sûre. Aujourd'hui paraît l'avant-dernier volume de cette intégrale, débuté il y a 20 ans et mené à l'époque par l'ancien directeur musical de La Phalange, Thomas Faye. Et le dernier volume donc devrait sortir au cours de cette année. L'intégrale est donc achevée et ils ne sont pas si nombreux à avoir vraiment tout enregistré. Il y en a qui sont arrêtés en cours de route.
Oui.
Il y en a,
ça ira jusqu'en 2033.
Voilà, et bien absolument. Et je trouve justement que, enfin, je pense que cette intégrale de Johannes Klump est peut-être un peu éclipsée par celle de Giovanni Antonini, qui est une des grandes intégrales, évidemment,
du moment.
Mais celle-ci ne manque pas de qualité, une vision d'ensemble qui est pleine d'allant, pleine de lumière, un engagement musical de ces musiciens qui ont vraiment beaucoup de mérite et qui restent peut-être donc dans l'ombre de Giovanni Antonini. Mais Johannes Klump a lui aussi percé le secret des symphonies de Haydn. Il souligne tour à tour une musique capricieuse ou galante, faite d'ombre et de lumière. Et donc, il y a 4 disques dans cet avant-dernier volume. Voici la 24e symphonie.
Thank you.
Ce n'est pas un concerto pour flûte.
On pourrait croire que c'est un mouvement lent, effectivement.
C'est un mouvement de la 24e symphonie de Haydn. Vous voyez, vous avez dit, on va peut-être en découvrir. Mais bon, en fait, dans celles qui existent déjà,
heureusement,
on ne les connaît pas toutes. Le Heidelberger Symphoniker, dirigé par Johannes Kump. C'est donc bientôt la fin de cette intégrale des symphonies de Haydn. Il y a un dernier volume qui va apparaître dans quelques mois. Peut-être que vous pourrez l'écouter.
C'est moi
qui
ai
fait beaucoup de volumes.
Oui, c'est vrai que j'en ai peu fait.
Eh bien, je vous le laisse, je vous le mets de côté.
10h20.
Bonjour à tous, c'est Renaud Capuçon et je souhaite un très bel anniversaire à l'émission En Piste, animée par deux formidables amoureux de la musique, des interprètes et évidemment des disques. Longue vie à cette belle émission.
France Musique, les 10 ans de En Piste.
Et c'est d'ailleurs du violon qu'on va écouter dans un instant, puisque Renaud Capuçon nous souhaitait notre anniversaire et qu'on vous présente nos coups de cœur. Une toute jeune violoniste, elle a 21 ans, on la découvrait, elle venait de Grenade, Maria Dueñas. Elle avait remporté le concours Yehudi Menuhin.
À l'âge de 18 ans.
Et vraiment, on découvrait un disque que j'avais trouvé superbe à l'époque, concerto de Beethoven.
Et puis, faut avouer qu'on avait l'impression qu'elle sortait de nulle part. On n'avait absolument jamais entendu parler.
On n'avait jamais entendu parler de
cette
espagnole.
Musicienne espagnole et en plus qui a commencé donc sa carrière discographique avec un des plus grands concertos écrits pour son instrument.
Et pour le label Deutsche Grammophon.
Le concerto de Beethoven pour le label Deutsche Grammophon avec l'Orchestre Symphonique de Vienne et Manfred Honeck. Donc, elle avait tout pour elle et on avait aimé tout l'enthousiasme qu'il y avait dans ce très beau violon que voici. Thank you. concerto de Beethoven, concerto pour violon avec la cadence que vous avez entendue, signée donc par Maria Dueñas, cette jeune musicienne. Alors on a fait les 10 ans là sur les 10 dernières émissions, on arrive en 2023 avec ce dernier disque Coup de cœur. Et lundi ce sera donc la diffusion de cette soirée anniversaire à 20h.
Et nous vous offrons donc des disques chaque jour si vous répondez à la question que je vais vous poser maintenant. Quelle est la nationalité de Maria Dueñas? Est-elle française, espagnole ou allemande? Et on est vendredi.
On ne répète pas. Voilà. On ne répète pas la question. Merci à Alex Autinoël et à Graham Musset et Karine David. On vous souhaite un très bon week-end à l'écoute de France Musique. On se retrouve lundi.
À réécouter sur francemusique.fr.